Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polonier, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Vous avez éteint votre écran, vos écrans, Gilles. C'est une bonne chose puisqu'on va commencer et qu'on a besoin de votre expertise et que vous soyez très concentrés.
Marion Maréchal, il y a quelques années, Florian Philippot, nous avions différence de ligne, disons les choses simplement. Mais le pousser à la sortie, à mon avis, était une erreur. Plus récemment, Gilbert Collard, Stéphane Ravier, qui était le seul sénateur du Rassemblement National, qui avait sa carte depuis 30 ans. Ça relève plus du fonctionnement d'une secte que du fonctionnement d'un parti politique mature. On ne peut pas prétendre rassembler les Français quand on n'est pas capable de rassembler sa propre famille politique.
On entendait Nicolas Bay, eurodéputé RN, ou peut-être faut-il maintenant dire ex-Rassemblement National, depuis qu'il a quitté le parti et sa présidente Marine Le Pen et sa candidate Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour. Nicolas Bay qui a été le numéro 2 du RN et qui n'est que l'un des nombreux hommes ou femmes politiques à avoir changé de candidat ces dernières semaines. Il y en a d'autres, puisque ce qui se passe à l'extrême droite se produit aussi à gauche et à droite. Est-ce que ce sont des histoires individuelles ou est-ce que ça dit quelque chose de plus profond? Je vais poser la question, Gilles Finkelstein.
On peut avoir une approche cynique de cette question. C'est la formule de Talleyrand, la trahison n'est qu'une question de date. Mais si on veut en avoir une approche historique, on mesure mieux, je crois, la singularité de notre situation. Sous la 3e, sous la 4e République, c'est-à-dire sous des régimes qui étaient ultra-parlementaires, ce à quoi on assistait, c'était des renversements d'alliances, c'est-à-dire des partis qui changeaient d'alliance. Sous la 5e République, dans ses premières décennies, on a eu quelques transferts interpartisans, c'est-à-dire de personnalités qui changeaient de camp. On se souvient de Michel Jobert, ministre des Affaires étrangères de Gaulle, qui devient ministre de François Mitterrand. On se souvient plus récemment de Bernard Kouchner, qui passe de gauche à droite et rejoint Nicolas Sarkozy. On a eu quelques indisciplines intra-partisanes. On se souvient des frondeurs en 2012. Mais la singularité de la période, depuis 2017, c'est que les ralliements individuels, on est passé de l'ère artisanale à l'ère industrielle. Ce n'est pas encore devenu la norme, mais ce n'est plus une exception. Il y en a eu beaucoup en 2017 et vous les avez évoqués, de Ségolène Royal qui appelle à voter Jean-Luc Mélenchon à ce qui...
Éric Woerth, donc LR, qui a annoncé mercredi son ralliement à Emmanuel Macron pour ne prendre que ces deux cas.
Voilà, donc c'est un peu un changement de période. La question c'est qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc peut-être Natacha pour
allez,
répondre,
Natacha.
Et ensuite je vous donnerai votre réponse, Gilles.
Pour reprendre, je crois que Gilles a tout à fait raison de distinguer différentes formes de passage des uns aux autres, de changement. Il y a historiquement différentes formes de trahison aussi, et la question même est de savoir si...
C'est forcément
suivre,
la trahison.
Justement, j'allais y venir. Si changer de parti relève forcément de la trahison, ou si, en politique, il est légitime de trahir ses amis politiques pour rester fidèle à ses idées. Les choses sont assez subtiles. Un Nicolas Bay, qui est maigrettiste, par exemple, a toute légitimité idéologique à aller chez Éric Zemmour, qui est plus proche objectivement de ses idées que Marine Le Pen. C'est très clair. La question, c'est la manière. Et c'est à peu près le même problème pour Éric Woerth. Éric Woerth et va chez Emmanuel Macron, la question qui se posait était de savoir pourquoi il n'y était pas encore allé avant, malgré évidemment tout ce qu'il pouvait dire sur la gestion catastrophique par ce gouvernement, de tous les problèmes économiques. On voyait bien qu'il n'avait strictement rien d'autre à proposer. D'ailleurs, la question c'est de savoir pourquoi Valérie Pécresse non plus n'était pas allée d'abord chez Emmanuel Macron. Et c'est bien là que se trouve le problème. Et la question est celle de la scénarisation de ces différents passages. C'est-à-dire que quand on opère une mue idéologique, c'est parfaitement légitime. On a le droit de changer d'idée, de se dire je me suis trompé. Le problème est qu'une fois que cette mue est opérée, l'honnêteté consisterait à dire je change de candidat parce que j'ai changé sur telle ou telle idée ou parce qu'il correspond mieux à mes idées, mais on le fait au moment où on a pris la décision, pas deux semaines après parce que c'est plus opportun et que ça va faire plus mal à ceux que l'on quitte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a la trahison des gens, il y a la trahison des idées. Et là, on voit beaucoup de trahison de gens, peut-être parce qu'il y a un petit peu moins d'idées. Il y a eu pendant 40 ans, notamment à gauche, une trahison des idées et des électeurs qui, pour le coup, sur le long terme, a fait, me semble-t-il, beaucoup, beaucoup de mal, quand ce que nous voyons aujourd'hui n'est que finalement la conséquence de ces différentes trahisons.
Gilles Finkelstein.
On évoque beaucoup le mot de trahison, ce qui est très frappant quand vous regardez ce que tous ceux qui changent de candidat déclarent, c'est toujours au nom de la fidélité à leurs idées. C'était, je vous la cite de mémoire, la formule de Régis Debray qui disait « Tout dépend d'une voyelle. Fidèle à qui ? Fidèle à quoi ? Il y a la fidélité japonaise et la fidélité chinoise. Est-ce qu'on est fidèle à ses idées ? Est-ce qu'on est fidèle à son suzerain ?» Et donc c'est toujours au nom de la fidélité que l'on trahit. Qu'est-ce que ça illustre ? Je crois un changement d'état de notre démocratie, ce que j'avais appelé le passage d'une démocratie à l'état solide, d'une démocratie à l'état gazeux. Dans la démocratie à l'état gazeux, eh bien, les clivages sont non plus de forme. C'est beaucoup plus instable et donc il y a non seulement des changements d'élus, c'est ce que l'on vient de voir, mais il y a aussi les changements des électeurs. On parle beaucoup de la mobilité électorale.
Oui.
Chaque mois, vous avez 25% des Français qui changent d'avis, qui décident d'aller voter ou de ne plus aller voter, qui changent de candidat. Donc tout ça illustre ce nouvel état de la démocratie. Il y a sans doute un côté positif, les choses sont moins figées. Et puis ça illustre aussi, et ça c'est sans doute plus inquiétant, un état de décomposition et de recomposition qui n'est pas encore en train de prendre forme.
Mais ceux qui changent de candidat, ils font un pari sur l'avenir, ils regardent les sondages et ils se disent tiens, les rapports de force sont en train de bouger. Nicolas Bay a plus intérêt à suivre Éric Zemmour que Marine Le Pen parce qu'il croit plus aux chances de succès d'Éric Zemmour qu'en celle de Marine Le Pen. Ou c'est pas aussi simple que ça?
Je pense que ça ne se joue pas sur les chances de succès immédiates, ça se joue sur ce qui adviendra après. C'est-à-dire sur le Nicolas Bay est jeune, il sait qu'il veut durer, qu'il veut des postes après, et il considère très certainement que Marine Le Pen est là dans sa dernière candidature, et que derrière le Rassemblement National, largement endetté, en difficulté et privé de leader si elle échoue une troisième fois, ne sera plus un endroit où on peut faire son nid. Et ça, c'est un classique, jouer le coup d'après. Ils le font tous dans cette campagne parce que il y a cette impression qu'en fait, elle est déjà jouée. Et c'est bien le problème aussi. C'est que du coup, ça, nous passons à côté des débats parce qu'il y a cette impression chez beaucoup que ça ne vaut pas même pas la peine de se battre et qu'il faut jouer déjà la recomposition. Je pense que la France, elle, ne peut pas se le permettre.
Conclusion, Olivier Faure, le patron du PS, dénonçait une campagne en forme de foire marketing. Le duel continue sur Inter.
Le grand face-à-face. Le duel.
Qu'on détaille, c'est tout un système qui s'est mis en place progressivement ces 15 dernières années en France. Comment, en fait, on a confié les clés de la maison à ces cabinets de conseil? Or, un, on ne le sait pas, et deux, ces cabinets n'ont aucune légitimité démocratique. Si j'ose dire, on ne va pas voter en avril prochain pour tel ou tel cabinet de conseil.
Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre étaient sur France Inter mardi et ils signent une enquête choc. Ils sont tous les deux grands reporters au magazine L'Obs. Une enquête choc sur les cabinets de conseil, la plupart américains. Le titre, les infiltrés aux éditions Allary. Leur travail consiste à montrer que depuis 20 ans maintenant, les cabinets de conseil privés se sont installés au cœur de l'État français. Une enquête qui a pour temps fort le mois de janvier 2021 quand on découvre en lisant ce livre que sans l'appui du cabinet de conseil américain McKinsey, le ministère de la Santé français aurait été incapable de lancer sa campagne de vaccination contre le coronavirus. L'État français, pour ces deux enquêteurs, serait devenu, je cite, consulto-dépendant. Dépendant comme une personne totalement addicte, et il va jusqu'à se faire conseiller dans des secteurs stratégiques comme celui de la défense. Une commission d'enquête au Sénat a été ouverte sur le sujet. De quoi est-ce que c'est révélateur, Natacha ?
C'est révélateur de ce que sont en train de devenir les États dans un système dérégulé. Et c'est très intéressant parce que le chiffre qui frappe dans ce livre, 24,6 millions d'euros pour les cabinets privés pour la gestion de la campagne de vaccination, qui, c'est-à-dire plus que ce qu'on a pu mettre sur la recherche en matière de vaccins. Mais moi, je me souviens, en janvier 2021, à Marianne, on avait publié une enquête sur McKinsey parce qu'en fait, on la préparait depuis longtemps, justement parce que ça nous avait frappé le fait que McKinsey était partout. Et quand on dit partout, c'est-à-dire que ça fait déjà des années que ça dure. Ce n'est pas le coronavirus qui a créé ça. En fait, McKinsey s'implante dans toute l'Europe. C'est un cabinet de consultants américain.
C'est le leader mondial.
Et donc, c'est une forme de soft power. Et quand, en 1987, l'ex-patron de Daimler-Benz déclarait « Rien ne se passe en Allemagne sans que McKinsey ait été consulté ». En 1987. C'est-à-dire que, déjà à ce moment-là, vous avez une transformation des politiques publiques et une gestion même des affaires en privé, entre entreprises, qui est dévolue à des gens qui sont en fait porteurs d'une idéologie. Alors, c'est d'ailleurs le grand paradoxe.
Mais parce que si on les paye, c'est qu'ils doivent bien savoir faire quelque chose que l'État ne sait pas faire,
Je pense que plus qu'une expertise, c'est vraiment une idéologie et le fait que pour la puissance publique, c'est une façon de se défausser de certaines décisions que le politique n'assume pas. C'est-à-dire que quand il s'agit, en gros, de déréguler, de faire des réformes, c'est-à-dire de nos jours faire des réformes, ça veut dire en fait rogner des droits et des régulations, eh bien on préfère être validé par des cabinets de conseil plutôt que d'assumer cela.
Gilles,
c'est un débat relativement récent en France. Ça fait en gros depuis 20 ans qu'il y a un recours plus important à ces cabinets de conseil. Et le débat est relancé par ce livre, par cet essai, Les Infiltrés. Mais dès 2014, la Cour des comptes faisait un rapport pour alerter. Il y avait eu une mission d'information à l'Assemblée nationale il y a quelques temps et une commission d'enquête au Sénat récemment. C'est un débat qui est légitime parce que on s'engage dans un cercle vicieux où le recours aux consultants extérieurs peut conduire à un affaiblissement de l'État, lequel contribue à un recours aux consultants extérieurs, et on est dans ce cercle vicieux.
Mais il faut dire que tous les États du monde ont recours à des cabinets de conseil.
Absolument.
La France n'est pas une exception.
Absolument. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'États, bien davantage que chez nous. Bon. À partir de là, je crois qu'il faut avoir deux attitudes. La première, c'est dénoncer des excès qui sont incontestables et que ce livre pointe très bien.
Mathieu Aron parle même d'un putsch rampant, d'un suicide assisté de l'État.
En tout cas, recours très systématique, trop systématique, un agenda idéologique derrière, comme le disait Natacha, c'est possible. Des conflits d'intérêts, parfois ça a été vrai, notamment pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où avec la RGPP, ses cabinets de conseil étaient partie prenante des décisions elles-mêmes.
Des décisions politiques.
Tout ça doit être dénoncé et donc tout ça doit être régulé. Il faut reconnaître que ça a été déjà fait dès 2018. Il y a eu une circulaire précisant le recours et que ça vient d'être fait davantage encore puisque au mois de janvier dernier, l'État s'est à la fois doté de compétences supplémentaires pour être son propre cabinet de conseil et a encadré en justifiant notamment à chaque fois le recours. Une fois qu'on a dit ça, donc oui, dénoncer des excès qui sont incontestables. Il faut, je crois, résister à des illusions funestes de croire que l'État, en tout lieu, sur tous les sujets, en tout temps, a toutes les compétences. Ce n'est pas vrai. Et donc, ce à quoi, je crois, il est utile de réfléchir, c'est à quelles conditions il est légitime de recourir à des cabinets extérieurs. Soit parce qu'il y a des compétences que l'État n'a pas, par exemple, dans la transformation numérique, l'État, très souvent, n'a pas la compétence, mais ce n'est pas le seul sujet.
Dans ce qu'on appelle le IT, notamment le recours à l'informatique, le traitement de données et les compétences humaines pour les analyser.
Parce qu'il peut y avoir, sur un certain nombre de sujets, la nécessité d'un regard extérieur, et ces cabinets, parce qu'ils opèrent dans énormément d'États dans le monde, peuvent avoir une expertise, là aussi, que l'État n'a pas. Tout ça, je termine par là, à condition que l'État, le pouvoir politique, garde à la fois les orientations, c'est lui qui dit ce sur quoi on travaille, et que c'est lui qui définisse seul les décisions.
Natacha Polony.
Deux points. D'abord, un paradoxe. Le néolibéralisme a eu pour conséquence, en particulier en France, une hyperinflation administrative conjuguée avec un recours croissant au cabinet de conseil. C'est quand même un peu dommage.
Expliquez-nous le paradoxe.
C'est-à-dire que dans le cœur de cette dérégulation qu'on appelle néolibéralisme, il y a l'idée, en fait, il y a le fait que c'est l'État qui organise la dérégulation et que donc l'État enfle pour organiser le fait que les marchés soient mis en concurrence. D'où l'inflation administrative. Mais en même temps, on fait appel à ces cabinets, ce qui aboutit à une situation absurde. Deuxième point, pourquoi ce sujet-là, moi, m'avait semblé absolument nécessaire, et notamment sur McKinsey, parce que j'avais été frappée, c'est-à-dire j'ai été journaliste sur les questions d'éducation pendant très très longtemps, et même sur un sujet comme l'éducation, McKinsey est là. C'est-à-dire que les enquêtes internationales PISA qui déterminent le niveau des élèves dans différents domaines, leurs compétences, dans les pays de l'OCDE, elles sont assorties de commentaires et de recommandations. Et c'est le cabinet McKinsey qui s'y colle. C'est-à-dire que vous avez actuellement un phénomène d'uniformisation des systèmes éducatifs au nom de la performance, c'est-à-dire de l'idée qu'il faut un bon système éducatif pour être compétitif. C'est absolument pas lié au rôle de... Enfin, on est très très loin de l'idéal de la formation du citoyen. Et donc, il y a cette idée que on va transformer petit à petit tous les systèmes éducatifs selon un même modèle, qui est donc conseillé, dicté par un cabinet comme McKinsey. Je trouve que c'est très révélateur que même dans un sujet comme celui-ci, on en soit à cette forme d'idéologie de la performance qui oublie la souveraineté des peuples et des États, des nations, et le rôle de l'éducation dans la formation d'un individu libre.
Gilles.
La question, c'est est-ce que c'est conseillé ou est-ce que c'est dicté ? Parce que même sur l'éducation, le fait qu'un cabinet de conseil, McKinsey ou un autre, ait un regard panoramique en suivant...
Les trois plus grands cabinets de conseil au monde sont américains, McKinsey, le Boston Consulting Group et Bain.
Donc qu'un cabinet de conseil ait une vision panoramique sur un sujet et ait suivi, accompagné les réformes des systèmes éducatifs dans de nombreux pays. Ça peut être utile pour un État. Ça peut être utile, y compris pour l'État français, pour réfléchir à la propre réforme de son système éducatif. La question, c'est est-ce que c'est un conseil ou est-ce que c'est dicté ? Et donc, c'est là où la limite doit être...
Ça s'appelle le soft power. C'est pas obligatoire, mais curieusement, ça s'infiltre partout.
Eh bien, on peut résister aussi.
Le duel continue.
Bien.
Le grand face-à-face. Le duel.
Une petite phrase qui en dit long, il faut s'attaquer à la structure de l'administration, c'est ce qu'a dit un ministre à France Info, et il donnait une idée des réformes envisagées par Emmanuel Macron sur le domaine de l'éducation, justement, en cas de réélection, une réforme qui verrait la suppression du CAPES, par exemple, ce concours qui permet de devenir professeur au collège ou au lycée, l'abandon du statut de fonctionnaire et donc l'abandon du recrutement à vie, on n'y est pas encore, il y a beaucoup de si, beaucoup d'inconnus aussi, mais vous teniez, Natacha, à vous arrêter sur ce sujet.
Oui, parce que c'est un sujet d'abord extrêmement important. On parle trop peu d'éducation dans cette campagne. Ça va peut-être venir, puisque ce qui semble, c'est que ce soit un des sujets qu'Emmanuel Macron voudrait mettre en avant quand il sera officiellement candidat. Et puis parce que on voit qu'il y a une petite musique qui monte, qui est en train de monter, c'est cette question de finalement de la dérégulation du système. C'est-à-dire là, ce ne sont que des ballons d'essai, tout ça, ça ne reflète pas ce que sera le programme d'Emmanuel Macron, cette idée de suppression du CAPES. Mais on voit déjà le programme de Valérie Pécresse qui va un peu dans le même sens à travers le point central qui est l'autonomie des établissements scolaires.
Pourquoi est-ce que c'est si important ?
Parce qu'en fait, c'est perçu actuellement par beaucoup comme la seule manière de faire bouger le système. Et je vais vous dire une chose, je trouve que l'éducation nationale est dans un tel état, les professeurs sont tellement en souffrance, maltraités, ayant pour beaucoup l'impression d'être déconsidérés, ils sont mal payés, il y a aujourd'hui une sclérose du système qui fait que notre école est devenue la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, il est temps de bouger. Donc, je finis par me dire que cette autonomie des établissements qui contre laquelle je suis spontanément, et peut-être que j'ai tort et que ce serait la seule façon de bouger. Le danger. En gros, ça veut dire quoi, autonomie des établissements ? Ça veut dire que vous avez un chef d'établissement qui peut recruter ses professeurs autour d'un projet pédagogique. En apparence, on s'adapte donc à l'état des lieux, c'est plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, ça nécessite de revenir sur le statut des enseignants, ça nécessite de revenir sur leur recrutement, donc ça fait bouger l'ensemble même de la notion de service public d'éducation, de fonction publique, et derrière, bah, s'il y a des projets d'établissements différents, à terme, pas tout de suite, mais à terme, bah, ça veut dire que les parents peuvent dire « mais moi je adhère plus à ce projet qu'à cet autre », et on met en concurrence tout le système. Et je pense que là, on arrive dans quelque chose qui est totalement différent de l'idée de l'école républicaine. Et je trouve cela inquiétant, mais c'est un débat qui doit être mis sur la table avec tous les arguments, me semble-t-il.
Gilles Finkelstein.
Messieurs, il est 15h. Et je vais vous dire précisément ce qui se passe dans toutes les écoles de France. C'est une phrase, Natacha, je la vois réagir tout de suite, de Jules Ferry, 1883, tribune de la Chambre des députés, signifiant par là ce qu'était la centralisation de la République et de notre système éducatif. De la République à l'Empire, de la Révolution, on a un système qui est centralisé.
Et national.
Centralisation des programmes, centralisation de la pédagogie avec les écoles normales d'instituteurs, centralisation de l'administration qui faisait les nominations. Ça, c'est l'histoire de notre pays. Depuis, il y a eu des infléchissements, un peu de déconcentration avec les rectorats, un peu de décentralisation, mais simplement pour la construction des murs, des écoles maternelles, primaires, des collèges et des lycées, mais pour l'essentiel, le système est resté comme ça. Il y a eu une double revendication d'autonomie dans notre histoire, et ça, c'est intéressant. La droite libérale a dit autonomie de l'organisation, c'est ce qu'évoquait Natacha. Une partie de la gauche disait autonomie de la pédagogie.
Exactement.
Bon. Où on en est aujourd'hui dans cette campagne dans laquelle on parle fort peu d'éducation? La gauche, de manière traditionnelle, encore une fois, dit la question, c'est la question des moyens, c'est la question des enseignants, c'est la question de la reconnaissance et du salaire des enseignants. Une partie de la droite, Valérie Pécresse, dit la question, c'est l'organisation et il faut aller beaucoup plus loin dans l'autonomie de l'organisation, c'est ce qu'évoquait Natacha. Éric Zemmour, très intéressant, dit exactement l'inverse. Il faut aller moins loin, il faut revenir à un système beaucoup plus centralisé. On ne sait pas ce que va dire Emmanuel Macron. On sait ce qu'il a dit il y a très peu de temps à Marseille. Expérimentation de l'autonomie de l'organisation. Moi, à ce stade, je suis...
En contrepartie de fonds davantage supplémentaires alloués aux établissements.
Voilà. Donc, moi, je dois dire honnêtement que mon siège n'est pas fait sur cette question-là. Ma seule intuition, c'est qu'il faut se méfier d'un chambardement rapide, complet, d'un système qui me fait penser à ce que l'on a vécu il y a quelques années avec la réforme de la retraite avec le système par points, où on a une idée au départ, une très bonne idée, et puis au fur et à mesure que l'on avance, on voit les difficultés de plus en plus insurmontables que cela provoque, et donc l'expérimentation, peut-être que ça se regarde, la généralisation comme ça, je pense que ça serait prématuré.
Mais il ne faudrait pas tout changer dans un système où les performances se dégradent, Natacha ?
Alors, il faut bouger, le statu quo n'est pas tenable. La question est de savoir ce qu'on fait exactement. Un petit point, j'ai toujours été dubitative et même réticente face aux grandes envolées lyriques sur l'autonomie pédagogique. Pourquoi ? Parce que je voyais à quel point elle ouvrait la voie à l'autonomie des gestionnaires. Et qu'en fait, il y a toujours eu dans les débats sur l'école la jonction entre les deux et ça aboutit à une libéralisation du système dont la conséquence est la mise en concurrence. Alors que il me semble que, et d'ailleurs c'est significatif là qu'il y ait dans les ballons d'essai macronistes l'idée de suppression du CAPES. Ça veut dire quoi, suppression du CAPES ? Ça
veut dire concours,
donc. On met fin à un concours anonyme national qui garantit en fait que tout professeur, où qu'il soit nommé, à un niveau qui est un niveau d'excellence qui va lui, parce qu'on va donner à chaque élève de France accès à ce niveau-là. C'est ça symboliquement que ça signifie. Or, on a déjà beaucoup dans l'éducation nationale pour l'instant accès, enfin recours à des vacataires parce que il y a un manque de professeurs. On prend en général les recalés du concours ou des gens qui sont recrutés de façon plus ou moins hasardeuse, et en général on les met dans les endroits où il y aurait le plus besoin de professeurs qui soient formés, qui soient bien payés, qui soient motivés. Il y a une inégalité qui est en train de se créer qui est profonde. Est-ce que bouger les choses doit se faire dans un sens qui va creuser ces inégalités. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, encore une fois, je n'ai pas de certitude absolue sur cette question parce qu'elle est éminemment complexe et que de toute façon, elle dépend aussi de ce qu'on propose aux enseignants pour revaloriser leur métier, leur salaire, pour en refaire le pilier de la nation.
Encore un mot, Gilles.
Oui, je crois qu'on peut et on doit sans doute réfléchir aux questions d'autonomie, d'organisation et d'autonomie pédagogique, de projet d'établissement, comme cela a été lancé par la gauche, là, pour le coup, depuis Alain Savary jusqu'à Lionel Jospin. Mais que là, les candidats de gauche qui disent il y a un sujet avec la rémunération des enseignants ont raison, parce que vous dites, Natacha, réflexion sur la suppression du CAPES, pour l'instant, les difficultés, c'est qu'on n'arrive pas à recruter des profs. Donc,
exactement.
Et
bah
une
oui.
des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à les recruter...
Ils sont mal payés.
Eh ben voilà.
Est-ce que vous pouvez refaire Jules Ferry? Allez, Gilles.
Messieurs, il est maintenant, il va être bientôt 13h.
Non, à 15h.
À 15h, et je peux vous dire ce qui se passe dans toutes les écoles de France.